Alors d'abord, toutes nos excuses, vraiment, parce qu'on ne pouvait pas prendre un train plus tôt parce qu'on avait un direct au Journal de la Santé. Et voilà, avec les petits embouteillages, ça a fait que...
Voilà, mais nous sommes là, fraîches et pimpantes.
C'est la première fois
que... Enfin, plus ou moins.
C'est la première fois que j'ai mon fils derrière, comme ça, qui surveille ce que je fais.
Attention, hein, il va nous taper, si on fait les choses bien.
Alors, par où commencer ?
Par notre rencontre.
Oui, c'est ça.
Je pense. Et puis, enfin, tu commences.
On est en juillet 2014.
Ça fait donc 4 ans.
Juillet 2014, Astrid vient me photographier à la maison pour un livre qui va sortir. Bon, moi, j'ai travaillé avec des photographes en agence. Je déteste les séances photo, mais il faut s'y soumettre, puisqu'à chaque livre, on change de... On change d'attaché de presse et on change de photo. Donc, et elle est tellement... elle bondit partout, elle a des positions incroyables, elle a la pêche, elle est rigolote. Je la trouve incroyable. Et à la fin de la séance photo, je lui dis, j'ai un projet, j'aimerais le faire avec toi. En fait, c'est pas vrai, j'ai pas tout à fait un projet. C'est-à-dire, j'ai juste un début d'idée. Parce que Jim m'a dit, au sortir d'examen génétique, je lui explique ce que ça veut dire génétique, et il me dit, non, mais c'est pas génétique, moi j'étais dans ton ventre et j'étais normale. Alors je lui dis, mais c'est quoi être normale? Et il me répond, c'est être beau et pas bavé. Et à partir de là, ce projet naît avec son titre, directement, être beau. C'est une évidence de montrer à ceux qui ne se croient pas beaux, et sans doute en partie à cause de nous, les normaux, à cause d'eux aussi, mais à cause de nous quand même, beaucoup. En tout cas, plus ils grandissent, plus c'est le cas. Voilà, donc je dis à Astrid, j'aimerais le faire avec toi. Et elle répond...
Bah, évidemment. C'est-à-dire, oui. je t'ai dit oui, tout à fait. On ne savait absolument pas ce qu'il allait advenir de ce projet, puisqu'il n'y avait rien de prévu.
Pas d'éditeur, pas d'exposition.
On ne savait pas vraiment d'ailleurs où on allait, plus ou moins, non plus.
Ben, quand on y allait avec enthousiasme. Déjà, quand je lui ai annoncé le projet. Elle m'a dit, on ne sait pas où on va,
voilà.
Ça va nous prendre beaucoup de temps, ça ne va sûrement pas nous rapporter d'argent, c'est génial, il faut le faire.
Voilà, c'était surtout parce que ça n'allait pas nous rapporter d'argent, on s'est dit, c'est génial.
Hein. Faut tout de suite le faire. C'est ce genre de projets qui sont des évidences, mais qui s'affirment. Mais curieusement, on avait des choses au départ qu'on savait, c'est-à-dire que Astrid n'avait pas l'idée de photographier différemment. En tout cas, elle allait le faire avec tout son talent habituel, enfin, voilà. Et moi, je savais que c'était un olni, c'est-à-dire un objet littéraire non identifié dans lequel je ne m'interdirais rien. Il faudrait que, d'abord, j'aille dans quelque chose de personnel, ce que je ne fais jamais dans mes livres. Je n'écris pas des romans avec ma vie. Donc, ça allait me demander un effort, parce que je n'aime pas trop ça. Et puis, un effort particulier, parce que ce sont des choses pas faciles, de parler de cette relation à l'autre différent, même quand c'est son enfant. Et puis, je savais aussi que j'allais parler de... Peut-être de... Ben évidemment, raconter l'histoire de ces personnes qu'on allait photographier. Astrid n'a rien lu pendant 4 ans. Je la laisse vous en parler.
Alors, n'a rien lu. En fait, c'est-à-dire que... nous avons commencé les séances photo. La première séance photo a été celle de Jim, donc ton fils, qui a été un petit peu un baptême, d'une certaine manière, et également une validation aussi, entre nous, du projet. C'est Jim qui, finalement, a déterminé si moi, j'ai senti, si c'était légitime aussi pour moi. Évidemment, tout a démarré dans une envolée, une légèreté, une simplicité, puisque nous avons fait la première séance photo sur un trampoline.
Je précise qu'elle était aussi sur le trampoline.
Aussi sur le trampoline, ce qui est quand même pas très aisé lorsque, en tant que photographe, de se retrouver comme ça, là, c'est pas très très simple. Bref, donc Jim a donné son aval et d'une certaine manière a fait démarrer cette aventure incroyable. À partir de là, nous avons rencontré différentes personnes au cours de d'une façon très simple et très naturelle, au cours de nos différentes rencontres. Nous avons énormément parlé de notre projet toutes les deux, puisque
c'était pas très simple au début, parce qu'on s'est dit quand même, parce que la faisabilité de la chose est compliquée. Vous pouvez pas aller voir des gens en leur disant, vous savez, vous avez un handicap et vous avez une tronche bizarre, donc on va
vous sélectionner.
Il y a un côté quand même un peu étrange à cette démarche, qui n'était pas du tout voyeuse. Et je pense que on était tellement sincères que même quand on a été maladroite et ça a dû nous arriver. Ça nous est arrivé, d'ailleurs.
Oui, ça nous est arrivé. Enfin, moi, surtout.
Non, toutes les deux, je pense. Mais on voulait, quoi. On voulait, et donc je pense que les personnes qu'on allait voir ont senti... On a commencé par aller voir les thérapeutes de mon fils, qui ont adoré le projet, parce qu'elles sont en contact tous les jours avec des adolescents qui n'ont pas confiance en eux, non seulement parce qu'ils sont adolescents, et c'est déjà le cas quand on est adolescent, de ne pas avoir confiance en son image, mais aussi parce qu'en plus, le handicap se rajoute à ça. Et du coup, ils nous ont dit « Ah, c'est une bonne idée ». Et eux ont commencé à nous mettre en contact avec des personnes. Et tous les autres, je vous jure que c'est vrai, tous les autres sont arrivés sur un plateau.
Comme ça. Ah, je crois que c'est vraiment au fur et à mesure, comme l'enthousiasme, cet enthousiasme nous a vraiment habité pendant 3 ans, un enthousiasme d'évidence de ce projet, de légitimité, d'évidence, de... Ce projet était solaire dès le début, je pense, vraiment. Donc on a réussi à insuffler ça lors de nos rencontres. Et moi, personnellement, j'ai rencontré, lors de mes différentes séances photos, je parlais du projet à plein de personnes différentes qui me disaient « Ah bah tiens, moi j'ai une personne qui est handicapée. Ah tiens, moi j'ai ce... » Voilà. Et donc, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que ça concernait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens et que ça faisait partie de notre quotidien, de notre... Et donc, les rencontres se sont faites vraiment comme au Musée de l'Homme, par exemple. Se sont faites
très naturellement.
Très naturellement deux jeunes filles ont été photographiées grâce à une des conservatrices du Musée de l'Homme. Donc, c'est vraiment... Les gens sont venus à nous avec
en fait,
naturel.
Ça délie les langues, le fait d'en parler. Et j'ai compris tout à l'heure, seulement tout à l'heure, 4 ans après, la maquilleuse du Journal de la Santé me dit « Tu sais, moi, j'ai été élevée en Suède. Et en Suède, on s'en fout des handicapés parce qu'on les voit. » Et c'est très violent en même temps. Ça veut dire que nous, on les cache, du coup, de fait. Et vous vous apercevez que tout d'un coup... oui, ça doit être vrai, ou en tout cas qu'on n'en parle pas. Ça doit être sûrement vrai, puisque tout d'un coup, dans la maison Stock, quand... alors, je suis un peu plus loin, mais quand le livre était en fabrication, il y avait des gens de partout, des services de Stock qui venaient en disant « Moi, je suis très investie sur ce bouquin, parce que mon frère, parce que mon cousin, parce que mon ami... » Et tout d'un coup, les gens parlaient des personnes qu'ils aiment, qui sont proches d'eux et dont ils ne parlent pas d'habitude... des gens qui travaillent depuis longtemps ensemble ne sont pas forcément au courant. Cette différence entre deux pays, justement. Tout comme si vous allez aux États-Unis, vous pouvez faire la moitié du Grand Canyon en fauteuil. Chez nous, on ne peut pas faire la moitié de la rue en fauteuil. Donc, tout ça est très...
cloisonné.
Très fort, très cloisonné, ouais. Très... Moi, j'ai un ami qui habite sur la ligne 14, qui est la ligne qui est la seule où il y a des... À Paris, où il y a la seule ligne de métro où il y a des ascenseurs partout. Il y a des jours où il ne peut pas aller travailler parce qu'en fait, l'ascenseur est en panne. Et je lui disais, mais si tu te mets devant l'escalier, personne ne te porte. Il me dit, mais on n'est pas aux États-Unis ici. Hein. Le sens civique n'existe pas en France. Et chaque fois, c'est une espèce de coup de massue comme ça, de se dire, on n'a aucun... On n'a aucun sens normal. Alors, on est des normaux sans sens normal, ce qui est un peu dommage. Et tout est comme ça. Et même à midi, on a beaucoup discuté dans le train de ça. Marina Carrère-Dancos a adoré le bouquin et elle nous a invités pour ça. Et en même temps, toute l'interview était menée dans un sens où on était totalement coincés parce que on était deux personnes qui étaient allés sur la planète du handicap. Donc,
avec
il y a eux et nous.
Avec
bienveillance et tout ça. Mais malgré tout, elle disait, qu'est-ce qui vous a poussé à accepter ce projet, alors que le projet, on ne l'a pas accepté, on l'a généré. À un moment, elle a demandé à Astrid, et vous qui n'êtes pas la mère d'un enfant handicapé, en gros, comment êtes-vous allée là-dedans? Et tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a un boulot, mais extraordinaire, pour être dans une normalité. Parce que c'est une normalité. C'est-à-dire que la vraie question, c'est nous sommes incarnés pour un certain moment. Parfois, la vie fait qu'on a un accident et que tout d'un coup, on se retrouve dans un corps qui ne marche pas. Et donc, on se retrouve dans l'autre planète. Et donc, du coup, on est éjecté de la planète des normaux, mais on n'est plus dans cette humanité. Et parfois, je demandais aux gens, je leur disais, mais ce que je ne comprends pas, c'est que quand on vieillit, par exemple, le corps, il n'est plus du tout au rendez-vous comme quand on était jeune. Donc, en fait, se moquer du handicap, c'est se moquer de l'avenir, ce qui est quand même très débile comme situation. Et en fait, on est tout le temps dans une non-considération du fait de passer à travers ça, comme dans Star Wars. Dans Star Wars, ils ont tous des tronches pas possibles, mais ça ne trouble personne parce qu'ils sont tous de planètes différentes. Pourquoi on n'est pas comme ça avec les autres qui sont différents ? Et ben voilà, c'est une vraie question. Et pendant tout le temps où j'écrivais ce bouquin, je me disais, mais comment faire pour que ce soit pas un livre qui soit pour les handicapés, la famille des handicapés, les thérapeutes et les travailleurs sociaux. Et à un moment, je me suis dit, il faut que j'arrête de me poser cette question parce que c'est un livre qui est magique. Il fait son chemin seul et il est merveilleux et il avance comme ça. Du coup, il trouvera la solution tout seul.
Mais je crois que la solution est venue aussi à travers les rencontres. C'est-à-dire que nous avons trouvé, enfin, pour ma part, en tant que photographe, j'ai trouvé la solution au début. La question, quand même, malgré tout, en étant sincère, je crois que j'ai eu la réaction de nombreuses personnes. D'ailleurs, nous réfléchissons sur cette question-là, qui est la réflexion de... Comment vais-je faire photographier une personne handicapée, une personne qui a une différence forte physique, voilà, j'avais toutes ces questions en étant dans l'ignorance, c'est-à-dire en étant parce que je n'étais pas en relation avec l'autre, j'étais
dans la
novice et dans la voilà. Et au fur et à mesure des rencontres très rapidement, la question ne se pose plus. Et pourquoi elle ne se pose plus? Parce que l'image, dès lors où on traverse l'image, on entre en relation avec l'autre, que ça soit avec une différence ou pas, on entre réellement dans l'être, sexué ou pas sexué. Moi, je vais aller jusque-là, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans la profondeur de l'être et on fait fi de tout ce qui est apparence. Non, on ne fait pas fi, c'est-à-dire qu'on englobe, on embrasse ce qu'est l'autre avec ses différences, en tenant compte de l'ensemble de l'être. Et on ne reste plus focalisé sur la partie extérieure, sur la partie visible, qui parfois peut être troublante. Par exemple, une des personnes que nous avons photographiées, qui est Jérôme Amand, qui est la personne qui a eu la première greffe totale du visage. Donc c'est assez difficile au premier abord. Frédéric, tu as eu la même sensation ? Au début, et dès le moment où on entre en relation avec la personne, où on parle, où on échange, tout disparaît. Et c'est vraiment ce message, je pense, dans ce livre, que ça soit toi ou moi avec l'image, toi avec tes mots, c'est vraiment ce dépassement et cette vision totalement décomplexée du handicap. C'est-à-dire que nous ne nous sommes jamais posé la question toutes les deux. C'est décomplexé, c'est solaire, c'est ouvert. C'est vraiment ce message.
La difficulté pour moi, c'était par rapport à Astrid, qui tout d'un coup, par exemple Jérôme, c'est très intéressant l'exemple de Jérôme parce que on s'est dit la même chose en le rencontrant. Jérôme, c'était rude parce que c'était un visage incroyablement réparé. Et lui, pendant ce temps, m'expliquait à quel point c'était sympa. Et maintenant, il pouvait prendre le métro. Effectivement, il avait la maladie d'Elephant Man et avant, il avait la tête tellement déformée qu'il ne sortait jamais dans des lieux publics. Et en même temps qu'on était dans un lieu public et qu'il me racontait ça, moi, je me disais, ouf, c'est quand même rude. Et ça a duré 5 minutes. Et puis, au bout de 5 minutes, je ne le voyais plus. En fait, je voyais lui, quoi. Je voyais cet être qui était tellement extraordinaire, j'avais juste envie d'être amie avec lui, de partager. À tel point que j'ai vécu un autre truc avec Jérôme, c'est que la greffe de Jérôme, entre-temps, a fait des rejets, et donc il est le premier deux fois greffé du visage. C'est-à-dire qu'ils lui ont greffé un autre visage, un deuxième visage, depuis les photos. Donc il n'a plus le visage qu'il avait quand nous l'avons photographié. Et je suis allée voir à l'hôpital. Et donc, il lui avait greffé la première fois le visage d'un homme qui avait 15 ans de plus que lui. Et maintenant, il a le visage d'un mec qui a 20 ans de moins. Donc, je rentre dans la chambre et je reconnais pas. Et je dis, Jérôme, parce que j'étais sûre du numéro de la chambre. Il dit, oui, t'as vu, ça change. Hein. Et en fait, bon, je m'assois en face de lui. Et au bout de 4-5 minutes, eh ben, c'est lui. C'est une expérience hallucinante parce que je le reconnais.
Ouais.
Alors qu'il n'a pas le même visage. Mais tout d'un coup, sa façon de parler, ses yeux, ce qu'il dégage. Et je pense très sincèrement qu'on rencontre l'autre avec une perception qui couvre le corps, avec des particules, avec des choses qui sont beaucoup plus... qui vont vraiment au-delà de l'enveloppe. Et du coup, c'est vraiment, vraiment très interpellant, cette expérience, parce que... si j'avais un souhait complètement à formuler avec ce livre, c'est de dire, j'ai pas du tout envie que ce livre serve à aller vers les autres sans peur et avec compassion, mais véritablement à les considérer exactement comme nous sommes, ce que nous sommes, des âmes dans une enveloppe qui a une certaine forme et au fond on s'en fout. C'est très décomplexant pour nous aussi, parce que on n'est jamais content. Je discutais avec une dame qui a 78 ans la semaine dernière. Elle me dit, mais quand je regarde les photos, où je me trouvais grosse, où je me trouvais pas belle, j'avais 40 ans, mais qu'est-ce que j'étais jolie et qu'est-ce que j'aimerais y revenir. Je dis, ah ben non, vous n'allez pas continuer. Elle me dit, oui, c'est vrai, vous avez raison. Parce qu'elle est, en plus, elle est splendide. Mais elle est splendide parce qu'elle dégage vous savez, cette espèce d'énorme décontraction qu'ont les femmes quand elles ont lâché l'affaire. C'est-à-dire qu'elles ont découvert que c'est pas la peine de se percher à 15 cm pour hériter de 40 ans d'emmerdement. Et tout d'un coup, tout va bien. Je dis ça, mais bon. Mais c'est pour moi. Mais voilà, donc cette histoire d'image, elle est aussi interrogante sur nous, sur notre façon de... Enfin, quand même, rappelez-vous qu'au XVIIIe siècle, on était beau quand on avait, pour les hommes, des machins avec des bas roses, des perruques absolument impossibles. C'était très moche, en fait. Mais eux se trouvaient beaux comme ça. Et donc, le fait de se trouver beau ou pas, c'est vraiment une relativité qui doit tous nous interroger au-delà du handicap et de l'obligation d'être dans un corps qu'on n'a pas choisi.
Moi, je rebondirais sur ce que tu viens de dire, justement, sur ce lâcher-prise qu'on peut avoir à un certain âge, ou pas. Ou pas aussi, parce que voilà, ça dépend vraiment de chacun et du travail de maturité qu'on a et de conscience de soi. La jeune femme qui est là sur la photo s'appelle Laetitia Bernard, qui est une journaliste sur France Inter, qui est aveugle. Et c'est une... pour parler de l'image, cette jeune femme a accepté... C'est une jeune femme qui a une profession publique, qui est donc connue, qui a une chronique, et qui a accepté de poser. Et la première chose qu'elle m'a dite, c'est « Je ne sais pas ce que tu... Je ne te vois pas, je ne sais pas ce que tu fais photographiquement, je ne connais pas le lieu où tu me mets, je ressens juste mon cheval, c'est tout, et je ne verrai pas du tout ce que tu as fait de moi, de mon image, mais je te fais confiance. » Et ça, c'est une... comment dirais-je? Lorsqu'on parle de l'image, c'est une confiance totale en soi-même. C'est-à-dire qu'au-delà de l'image, elle a accepté de poser et d'avoir confiance et de dépasser cette image qu'elle ne peut pas contrôler. Elle a pu, en posant des questions à ses proches, mais malgré tout, c'est une interprétation des proches et non pas... il n'y a pas de contrôle de sa propre image. Donc là, on découvre que ce handicap-là, qui est la cécité, lui a apporté, et on ne parle pas d'exemplarité parce qu'on ne veut pas donner, comment dirais-je, séparer les personnes qui ont un handicap et les autres. Mais malgré tout, il y a là réellement une maturité de conscience de qui l'on est, qui est, à mon sens, exemplaire. Et à suivre. Ça c'est mon point de vue. En tant que photographe, ça a été extraordinaire d'avoir cette confiance, qu'on me fasse autant confiance. Donc ça, c'était un point sur l'image qu'on peut lâcher à un moment donné. Et c'est très, très difficile.
En même temps, le lâcher prise, elle a l'habitude, parce qu'elle fait quand même du saut d'obstacle à cheval.
Oui.
Donc elle a un lâcher prise quand même assez considérable. Mais c'est vrai que c'est... On avait contacté une autre personne aveugle qui est auteur. Et qui nous a mis à des moments, c'était compliqué. Il essayait de nous, comme il est auteur évidemment, d'aller chercher notre motivation profonde. Et perversement, il nous disait, mais ok, vous voulez faire ce travail, mais est-ce que vous vous trouvez belle? Nous ne nous voyons pas non plus d'ailleurs. Et du coup, il y avait une sorte de rapport assez, pas agressif, mais tendu. Et cette tension, elle existe aussi dans le monde du handicap, et je ne pouvais pas m'en affranchir quand j'ai écrit le livre, parce qu'elle est forte, parce qu'ils se chambrent aussi entre eux de manière assez costaud. La première fois que, par exemple, je lui dis, mais tu sais, moi, en fait, j'ai pas de copain aveugle, donc il y a des choses que je sais pas. J'ai dit directement, je sais pas faire. Faut que tu me dises quand je te guide ce que je fais mal. Donc, à un moment, on parlait de trucs intimes. Alors, il fallait que je l'avertisse quand quelqu'un d'étranger s'approchait, parce que, du coup, lui, il ne peut pas le savoir si quelqu'un s'approche de nous. Donc, il m'a donné des petits trucs comme ça. Mais c'est un type incroyable, parce que la première fois, il m'emmène dans un truc de musique. Et c'était pas autorisé au grand public. Et il me dit, écoute, c'est pas autorisé au grand public, mais comme je suis intervenant, si tu veux faire chien d'aveugle, tu viens avec moi. Enfin, il y avait une espèce de rapport comme ça... assez abrupte. Et petit à petit, on a beaucoup plaisanté comme ça, avec les différentes personnes.
Alors, il y a aussi des anecdotes où on plaisante, et ça, c'est aussi important dans notre façon de travailler de ensemble, parce que j'allais dire collaborer, mais pas du tout. En fait, c'est même pas de la collaboration, ça a été une amitié très, très, très forte et qui grandit de plus en plus. Ces 3 ans ont été, comment dirais-je, truffés d'anecdotes de avec les différentes personnes que nous avons photographiées, et qui nous ont permis aussi de comprendre tout l'humour et toute la légèreté que l'on peut avoir aussi lorsqu'on parle de handicap ou de différence. C'est-à-dire qu'on est vraiment sorti de cette image compassée, cette image clinique souvent pleine d'apitoiement, aller vers une vision. Aide-moi, Frédéric. Une vision légère, solaire. D'où, par exemple, là aussi, des photos où j'ai photographié Tim sous l'eau, où je n'ai absolument pas du tout géré la prise de vue, parce que c'était très compliqué sous l'eau.
Et en fait, Astrid n'avait pas réfléchi que sous l'eau.
Il fallait être lesté.
Donc elle
parce
avait
que
pas
sinon, on remonte.
Donc, elle remontait avec son appareil.
Vous comprenez ? On va en sous l'eau et on remonte. Donc, on se retrouve dans des états pas possibles. Et donc, Tim
a beaucoup rigolé.
Tim m'a dit, mais enfin, tu es photographe professionnel ? J'ai dit, non, pas sous l'eau. Et finalement, on se retrouve dans un humour, une folie, une fantaisie qui fait que... on oublie complètement que la personne ne peut pas marcher, peut pas, parce que soi-même, on se retrouve dans une situation complètement loufoque. Et il y a eu plusieurs situations comme ça qui ont...
Tu penses à Frédéric ?
Frédéric Saucet ? Oui. Mais tu peux le raconter, j'ai pas honte.
Non, vas-y, vas-y. C'est à toi que c'est arrivé.
Frédéric Saucet, pour vous dire à quel point nous avons avancé avec légèreté et confiance... avec les autres et en vraiment profonde relation avec les autres, c'est que...
Frédéric Saucet, donc, a eu un staphylocoque doré à l'âge de 43 ans, et donc il a été amputé des 2 bras et des 2 jambes. Et comme il avait toujours voulu faire de la course automobile, mais il n'avait jamais couru, il a décidé de faire les 24 heures du Mans. Il a réussi, classé 35e, c'est un type incroyable. Et c'est un type qui est tellement entier, viril... Quand je dis entier, je ne dis pas le mot par hasard.
Oui.
Qu'on oublie tout le temps. Mais tout le temps.
Tout de suite et tout le temps.
Oui. Et du coup, c'est très troublant parce que il nous a emmenés en bagnole au restaurant. Il est complètement autonome. Et
arrive la séance photo. Arrive la séance photo, c'était chez lui, et je lui propose de faire des photos avec son casque. Comme il est, et il me dit, va chercher au premier étage le casque. Donc je vais chercher le casque, et puis les deux Frédéric me disent, mais Astrid, qu'est-ce que tu fais? Tu traînes, tout ça. Et... je dis, je trouve pas les gants. Il me dit, ah,
ça va pas être possible.
Ça va pas être possible.
Et Astrid était dans un état de confusion.
Mais ça n'a posé aucun problème. Ça ne me pose aucun problème de le dire. Parce que, justement, j'avais complètement oublié qu'il n'avait plus de bras. Ben et oui. Plus de jambes. Et ça...
En même temps, le type qui lui a livré son fauteuil est reparti dans la voiture chercher les calepieds. Hein. Donc,
voilà.
On n'était pas...
Mais vous rendez compte quand même, malgré tout, que justement, tout ce qu'on essaye de décrire là, c'est que dès qu'on entre en relation... on ne voit plus ce qui manque, en fait. Qui manque n'existe plus. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, mais pas ce qui manque. Et la plupart des gens qu'on a rencontrés ont trouvé ça très amusant. Et à chaque fois, n'ont pas eu n'ont pas été blessés par mes propos.
Non, non. Mais en fait, il y a beaucoup de peur et beaucoup de maladresse. Et dans le rapport à l'autre, ben là encore, hier, on me disait « Moi, je ne sais pas comment faire si je croise un fauteuil. Est-ce que je dois faire semblant de ne pas voir le fauteuil ?» Enfin, des trucs complètement compliqués. Qu'est-ce que la personne va penser Ça, c'est le côté peur. Et du coup, comme je ne veux pas y aller, ben je fais semblant d'eux. Et puis, les maladresses, c'est tout le temps. C'est tout le temps et c'est tout le temps de la part des proches aussi. Moi, j'ai encore, il y a une semaine, une amie assez proche qui me dit « Oh là là, mais comment tu fais? Moi, j'aurais jamais pu. » Je lui dis « Mais justement, heureusement que tu m'en parles. Est-ce que par hasard, tu n'aurais pas une grande poubelle que je puisse jeter mon fils parce que je ne sais pas quoi en faire ?» Et donc là, elle s'est rendue compte. Parce qu'évidemment qu'elle aurait pu. Évidemment que n'importe qui peut avoir un enfant qui a un handicap et il fait comme il peut parce qu'il n'a pas le choix. Je me suis retrouvée avec une enseignante qui m'avait dit « Mais on n'a pas de formation pour s'occuper de ces enfants-là. » C'était presque ces gens-là. Et je lui ai dit « Mais je n'ai pas un ange qui est venu en disant « Chère madame, vous allez avoir un enfant handicapé, je viens vous faire une petite formation. » Personne n'a de formation pour être un être humain. C'est juste un peu normal d'essayer de faire avec. Et bien sûr que personne ne lui en voudra si... cet enfant-là ne réussit pas comme les autres, etc. On n'engueule pas les enfants normaux. Alors pourquoi enfin, c'est tout le temps que ces maladresses, elles sont au rendez-vous. Quand on va au restaurant avec Ishran, chef opérateur, il s'appelle Camille, pardon, dans le livre, qui est chef opérateur et qui a une voix un peu comme ça, qui parle comme ça. Bon, il est chef opérateur, il boite un peu. Et quand on est au restaurant, la dame lui dit « C'était bon !» Bon, et quand je vais aux toilettes, je lui dis « Pardon, mais il a fait centrale et X, est-ce que vous pouvez lui parler normalement ?» Voilà, ce genre de choses... C'est des choses qui ne s'apprennent pas et qui pourraient être considérer l'autre de la façon la plus normale possible. Et à ce moment-là, ça disparaîtrait, ce genre de maladresse, en fait. Si on n'avait pas une espèce de sensation comme ça, que l'autre est tellement pas comme nous, qu'il faut lui parler comme ci ou faire comme là. Alors après, c'est compliqué, hein, parce que Ishran, par exemple, à la fin du repas, très naturellement, je lui mets sa veste et il fait « Je fais comme ma mère, alors !»
Ça, c'est Ishran.
Bon, ok, je dis « Ok, Ishran, alors tu me dis là où je t'aide et là où je t'aide pas. » Parce que pendant le repas, par contre, il commande un steak comme ça, qu'il peut pas couper. Naturellement, je vais couper sa viande, etc. Bon, et en fait, ce truc... se passe naturellement, voilà, c'est ça. Si on se comporte naturellement, bon, on fait des conneries à des moments, mais je pense que c'est moins important de faire des erreurs dans la façon dont on se comporte plutôt que dans ce vocabulaire auquel il faut vraiment faire attention et qui a été inventé par les normaux, quoi. Porteur de handicap, souffrir de handicap. Non, on ne souffre pas de handicap. Donc, c'est très compliqué, cette histoire de terminologie, parce que on ne nomme bien que ce qu'on expérimente. Donc, les normaux n'expérimentent en rien, ils nomment très mal les choses, et ils les nomment à la place des autres. Donc, il faudrait renommer les choses. Je ne sais pas si vous savez l'origine du mot handicap. C'est hand in cap, donc la main dans le chapeau. Et la main dans le chapeau servait au Moyen Âge, dans les séances de troc, à équilibrer le troc. C'est-à-dire que s'il y avait un truc qui n'était pas équilibré, on allait chercher dans le chapeau et on essayait d'équilibrer le troc. Donc ça voulait dire mettre quelque chose en plus quand il y avait quelque chose en moins. Ensuite, on a utilisé ce terme dans le hippisme pour équilibrer les chevaux. Alors c'était pareil, c'était équilibrer les chevaux pour pas qu'il y en ait un qui soit plus fort que l'autre, etc. Donc il y a quelque chose en plus, quelque chose en moins à chaque fois. Et tout d'un coup, de façon pas miraculeuse du tout, quand on parle du handicap des personnes, et ben, le quelque chose en plus a disparu. Et on ne sait pas pourquoi. Et c'est vraiment dommage parce que elle, par exemple,
alors, elle,
explique-nous.
Alors, il y a plein de choses à expliquer.
Vas-y. Notre arrivée à Rennes.
Alors, vas-y, toi, tu dis l'arrivée
non,
à Rennes.
Non, 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 c'est toi qui parles.
Alors, l'arrivée à Rennes... alors, ça, ce sont les photos de Delphine Sancier.
Delphine Sancier est une jeune femme qui...
Et tétraplégique.
Voilà. Et
elle bouge un doigt.
Comment ?
Elle bouge un doigt.
D'ailleurs, il y a une photo là où elle. On va quand même. Bon, on va d'abord. Elle a réalisé des photos très jeunes, à 18 ans, des photos érotiques. Elle a publié un livre, elle a fait plusieurs expositions. Et, elle a eu besoin, pour assimiler son corps, elle a eu besoin de faire des photos érotiques. Quelques années plus tard, nous l'avons rencontrée. Elle est devenue maman. Chose qui n'était absolument pas du tout prévisible, puisque tout le monde lui avait dit qu'elle avait un bassin trop étroit, que ça ne marcherait pas. Enfin, bon, évidemment, on lui avait prédit les pires choses en tant que éventuelle mère. Elle a eu un enfant. Donc, on a décidé de faire des photos avec son fils, ce qui est très difficile, puisqu'il ne voulait pas poser. Nous sommes arrivés donc chez elle. À toi de continuer, parce que tu es très bonne narratrice.
Eh bien, quand on est arrivé, j'ai vu le regard d'Astrid sur ce décor qui n'était pas un décor.
Il n'y a pas eu de décor d'ailleurs. Nous avons toujours fait des photos où on est sans mise en scène.
Voilà. C'est-à-dire que... Mais là, c'était particulièrement tragique, je dois dire, parce qu'il y avait des trucs partout, parce que maison où il y a un enfant, il était malade. Elle était sexy et impeccable, mais l'autour et l'alentour, on ne savait pas comment on allait faire. Et puis ce fils qui était malade, il pleurnichait, on n'était pas le bon jour du tout, quoi. Et donc Astrid est du coup sortie dehors, elle a fait un reflet avec la vitre, enfin bon, Astrid, avec son talent. Et ce qui était extraordinaire, c'est que Delphine disait « Vous voulez un café ? Je vais vous faire un café ». Et nous, on la regardait en se disant « Voyons, elle va nous faire un café, comment ça ?» Et les personnes qui sont autour d'elle sont le prolongement de nos désirs, et de ses propositions. C'est-à-dire, quand elle dit « je vais vous faire un café », il y a une fille qui se lève, elle fait le café, elle l'amène, et c'est comme si Astrid avait reçu le café de Delphine. Voilà. Après, il y a son mari qui la maquille.
Non, qui voulait lui maquiller, qui a voulu la maquiller. Hein.
Vas-y.
Non, vas-y.
Non, à toi.
on lui propose de mettre du rouge à lèvres. Tu veux que je raconte ça, c'est ça ?
Oui.
D'accord. À propos de mettre du rouge à lèvres. Et alors, d'évoquer ça, il y a des questions qui se posent lorsqu'on voit une femme. C'est la question qu'on s'est posée quand même, hein, après coup. On découvre une femme extrêmement sensuelle, extrêmement. Et puis à la fois, on se dit, mais. Cette immobilité, comment dépasser cette immobilité ? Comment faire éclore cette sensualité ? Et on la sensualité naît de la personnalité, non pas du mouvement, à mon sens. Elle naît de ce qu'on est, de ce qu'on dégage, même sans bouger un seul doigt, un seul membre.
En fait, donc, et je veux juste préciser une chose, c'est que Astrid a été beaucoup plus
touchée, moi, oui. Moi,
perturbée quand on est allé voir Delphine. Moi, moins. Mais j'ai eu l'impression, mais tu m'arrêtes si oui. Je dis des bêtises, qu'en fait, elle arrive devant une personne qui est très immobile. Et normalement, c'est elle qui appuie sur le bouton pour que tout soit immobile. Et là, le truc, il est déjà immobile quand elle arrive. Et là, c'est un problème. Et du coup je la voyais perturbée et en même temps portée par la beauté qui se dégageait de Delphine, avec un naturel incroyable.
Un aplomb et une autorité.
Oui, elle est très autoritaire.
Une autorité féminine.
Et en même temps, les choses s'organisent autour d'elle de façon fluide. C'est-à-dire que tout d'un coup, elle est encombrée, son mari se lève, il lui appuie sur la poitrine, paf, ça fait sortir les encombrements parce qu'elle a une trachéo. C'est très étrange à vivre, ce ballet qui s'organise autour d'elle et qui fait qu'elle a une vie normale.
Et qui fait qu'elle a une vie normale. Et en fait, nous avons vécu deux facettes de cette femme. Donc il y a une première facette qui est la facette, et je reviendrai après sur
femme.
Cette facette de femme-mère, enfin. Cette photo, en fait, a été prise vraiment comme ça. Elle ne bouge absolument pas les bras, et son fils, pour évoquer vraiment tout le naturel, finalement, du handicap. Son fils est venu la voir, s'est posé sur elle, et tout simplement avait envie d'avoir les bras de sa mère autour de lui. Il a tout simplement pris son bras et il l'a mis autour d'elle, comme une écharpe.
Oui, il a pris les deux bras.
Mais avec une simplicité, une des simplicités, enfin, vraiment un naturel. Donc, on a besoin d'amour, on va le chercher. On n'a pas besoin de quémander, on va le chercher. Et si c'est compliqué, eh bien, voilà, on œuvre naturellement pour recevoir cet amour-là. Donc ça c'est vraiment la partie très forte de Delphine. Et puis il y a la deuxième partie qui est justement cette partie extrêmement sensuelle, extrêmement femme, malgré effectivement cette immobilité où inévitablement on se pose des questions et il faut le dire, il faut oser le dire. Et tout d'un coup, juste dans le regard, juste dans un mot, on découvre que toute la sensualité est là. Son auxiliaire de vie lui demande « Est-ce que tu veux que je te mette du rouge à lèvres ?» Elle dit « Certainement pas. C'est mon mari qui va me mettre mon rouge à pipe. » Voilà, je l'ai dit.
Et donc voilà,
vous vous rendez compte et là, on s'est dit « Mais tout est là. »
Ah oui, complètement.
Tout est là.
C'est une fille qui a voyagé.
Quelle sensualité assumée, pleinement. Et là, je me suis dit, toi, tu étais moins dans le, mais moi, je l'étais. Je me suis dit, bah oui. Tout est dans les mots et tout est dans l'attitude. Et non pas dans la gestuelle ou dans la... Non, tout est ancré. Et pour toutes les rencontres que nous avons eues, tout est ancré. Rien n'est apparence. Oui, l'apparence, évidemment, a de l'importance. Oui, il est complexe. Oui, que ce soit également pour une personne qui est atteinte de handicap. Mais au-delà de ça, lorsque c'est pleinement assumé, et toutes les personnes que nous avons photographiées avaient des personnalités pleinement assumées.
Peut-être pas toutes, mais...
Parce qu'il y a
aussi la partie team qui est adolescent, qui est en train de se chercher.
Oui.
Donc pas toutes, mais en tout cas... et je le vois avec mon fils, Jim, même quand des choses sont mal vécues, puisque c'est un garçon qui est très en colère, qui peut, par exemple, dire « Pourquoi c'est moi qui ai eu ce handicap et pas mes frères et sœurs ?» Eh bien... malgré tout, il y a des moments où il a cette espèce de force humaine démesurée, où tout d'un coup, il me regarde, il se marre parce que je suis en train de râler pour un truc, et il me regarde, il me fait « c'est la vie ». Ça m'énerve, évidemment. Hein. Mais en même temps, il y a une sorte de récupération à un moment ou à un autre, de quelque chose qui est comme ça, les choses telles qu'elles sont. Et même dans la révolte, il y a ça. Et alors évidemment, à l'âge adulte, bon, pour avoir beaucoup discuté avec Ishran, je le raconte dans le livre, Ishran me dit, de toute façon, l'enfance, c'est naze. Déjà, tu commences comme ça. C'est vachement agréable quand on dit ça à une mère. Moi, j'ai commencé à me sentir bien quand j'ai commencé à être ce que je faisais et non pas ce que j'étais. Donc maintenant, je suis chef-op. Je suis chef-op sur un tournage de cinéma. Mais dans le bus, je suis encore un sale handicapé. Bon, donc quand il le dit comme ça, on se rend compte... j'ai un éditeur qui est de chez Plon avec qui je discute du bouquin et il me dit tu sais moi j'ai une maladie assez difficile pendant un moment j'ai été pendant un an et demi en fauteuil donc je découvre voilà il me fait cette confidence et il me dit puis quand je suis sortie du fauteuil j'étais gros parce que je ne faisais pas de sport. Donc c'est double peine. Hein. C'est d'abord le fauteuil. Il me dit, il y avait des gens qui regardaient les roulettes comme ça, en me disant, mais il y a un problème là. Il me dit, ça, tu perçois tout à 150%. Et après, il était gros. Et en fait, il y avait tous ces trucs qui s'abattaient comme ça. Évidemment que maintenant qu'il est debout et mince, ça ne sera plus jamais le même mec parce qu'il a vécu ça. Et c'est la même chose que quelqu'un qui a vécu une maladie très grave ou compliquée et qui en est sorti. Ces choses humaines de l'enveloppe changent à 150% l'humain que vous êtes ensuite ou en même temps.
Nicolas Huchet, tu parlais justement
De se réparer.
Oui.
Il a perdu sa main à l'âge de 18 ans. Et il a commencé... évidemment, il lui a demandé qu'est-ce qui allait se passer avec la prothèse. Et on lui a dit, la prothèse, ça fait la pince, ça fait ça, quoi. Il a dit, non, ça ne va pas être possible. Je veux une main, une vraie main, donc je vais la fabriquer.
Une belle main, une main ultra graphique.
Pas seulement, ultra articulée.
Performante.
Non, performante, oui.
Donc il répare les autres pour se réparer lui-même. Donc il y a vraiment un travail de réparation à partir d'un.
Il a fabriqué sa propre main et il fabrique aussi d'autres prothèses pour d'autres personnes. Et au début, il l'a fait parce que ça a dû faire comme nous avec le hasard, c'est-à-dire que tout d'un coup, quelqu'un venait et disait « toi, tu ne voudrais pas me fabriquer ça ?» Et il l'a fait. Et puis tout d'un coup, il s'est rendu compte qu'en réparant les autres, il se faisait du bien à lui. Et c'était important. Et du coup, voilà. Donc maintenant, c'est quelqu'un qui a développé une société. Human Kit. Il propose des prothèses. Vous connaissez sans doute cette athlète qui s'appelle Aimée Mullins, qui a 27 paires de jambes. Elle court avec des jambes qui sont... Je crois qu'on ne peut pas tenir debout avec. On ne peut que courir. Elles sont complètement tordues, etc. Puis elle a été mannequin et elle a des jambes transparentes, sculptées. Et puis un jour, elle fait 1m72 et le lendemain, elle fait 1m82. Ce qui est quand même sympa. De changer comme ça, moi qui vis avec un mètre, mec d'un mec 92, j'adorerais de temps en temps changer. Et donc, du coup, je dis à Violette, qui est une personne de petite taille, et toi, si tu mettais des prothèses et que tu fasses 1m70, ça serait sympa. C'est la décontraction qui fait qu'à mesure qu'on avance dans le handicap, on ose tout. Et Violette me fait, sûrement pas, je gagne mon 1m30. Je dis, pourquoi? Parce que tu dois ça aux autres personnes de petite taille. Il me dit, oui, en fait, t'as raison. Je dis, si c'était normal, par exemple, de changer de taille de jambes, de mettre des prothèses, parce que finalement, des jambes, c'est pas très beau. Il peut y avoir des jambes vachement plus sympas que celles qu'on a. Enfin, c'est des jambes normales, mais il y a des choses beaucoup plus graphiques. Et j'ai senti que chez Violette, tout d'un coup, je me suis dit, pourquoi je ferais pas 1m70? Tout d'un coup, ça serait rigolo de voir la vie autrement.
C'est Violette.
Voilà, Violette, qu'on a mis sur un piano parce qu'elle est chanteuse lyrique. Et Violette se bat contre des choses qui sont vraiment difficiles parce que dans le nanisme, la réputation, c'est les monstres. Et puis, ils ont été vus comme ça aussi dans la littérature et vus comme ça aussi dans le cinéma. Et Violette, elle se bat contre le lancer de nain, par exemple. Et donc, il y a vraiment des choses... vraiment difficile, dans lesquelles nous, on peut faire quelque chose. Exactement, à mon sens, exactement comme si nous, les femmes, puisque être une femme, c'est une autre sorte de handicap, on essayait de se battre toutes seules contre le machisme ordinaire, ou ambiant, ou développé. Non, on a besoin qu'il y ait des hommes qui se battent pour les femmes. J'ai eu autrefois, quand j'étais journaliste, un étudiant congolais, qui était élève journaliste, et qui faisait un espèce de reportage, c'est normal, c'était débutant, pour la cause, etc., le racisme, machin. Et je lui disais, ton reportage est contre-productif, parce que tu essayes de défendre quelque chose qui n'est pas défendable par toi. Il avait pris un aspect et un angle, et je lui dis, c'est défendable par un blanc, mais pas par toi. Parce que là, tout de suite, ça va être la pauvre victime, le racisme, la colonisation, machin, etc. Et je lui dis, tu as besoin forcément que l'autre qui t'a opprimé soit à tes côtés pour défendre quelque chose. Parce que c'est très important d'être ensemble pour défendre une cause. Donc je pense que on a quelque chose à faire quand on est en dehors d'être touché soi-même par le handicap pour que ça soit considéré comme une humanité à part entière. Et je dirais que notre musée de l'Homme, là, on est très heureuse parce que oui. Dans un an, les photos d'Astrid rentrent au musée de l'Homme. Mais c'est surtout le handicap qui rentre au musée de l'Homme, qui est un vrai symbole.
Alors, ça va être une exposition qui va durer 5 mois. 9 mois, oui, 9 mois. Et cette exposition va être ponctuée de différents événements importants, des conférences de presse avec des conférences avec plusieurs personnes qui ont participé, dont d'ailleurs j'imagine peut-être Nicolas Péhé ou d'autres personnes. Nicolas Péhé est un photographe sourd et muet, donc c'est très intéressant aussi d'avoir affaire de photographe à photographe sans pouvoir se parler et s'entendre. Et nous allons également avoir un spectacle qui est l'adaptation du livre avec et
probablement un documentaire.
Les textes et les photos. Mais effectivement, le musée de l'Homme est une symbolique très importante puisque on vient plus ou moins après une exposition sur le racisme. Là, on est aussi, et ça semblait absolument évident, de faire rentrer la différence au musée de l'Homme. C'était
Oui, parce qu'en plus, dans les conférences, ils sont très intéressés par le côté scientifique, le côté historique aussi. Il faut qu'on s'en dégage, mais il ne faut pas qu'on oublie que dans quasiment toutes les cultures et sous toutes les latitudes, le handicap était la marque du diable. On avait failli dans le passé et donc on était marqué. Donc il y a des endroits où on cache le handicap pour cette raison-là, parce que la famille, dans tous ceux qui sont, mais que ce soit les bouddhistes avec la réincarnation, où tout d'un coup, on se réincarne dans un corps handicapé parce qu'on a dû faire des trucs catastrophiques avant. Voilà, donc beaucoup de cultures, c'était ça. Et du coup, sans doute qu'on porte des choses malgré nous de cet ordre-là dans notre refus de la différence ou dans notre non-considération de l'autre différent. Peut-être que vous la connaissez, elle est assez médiatisée quand même.
Annie Alinder, qui a une histoire, qui a eu un accident, et qui, tu peux le raconter, ça aussi.
Non.
Non.
Vas-y.
D'accord.
Annie Alinder. Je parle beaucoup.
moi, je m'occupe des photos parce que c'est difficile. C'est Annie Alinder est une harpiste. Qui était déjà une harpiste confirmée, qui a fait d'ailleurs son dernier spectacle était une adaptation de L'insoutenable légèreté de l'être de Kundera. Elle a subi un accident, je crois qu'il y a à peu près 5-6 ans, et donc elle s'est retrouvée en chaise roulante avec l'incapacité d'utiliser ses jambes. Donc tout le monde lui a dit, écoutez, la harpe c'est terminé, une harpe contient 7 pédales. Donc n'ayant plus de jambes, on lui a dit, écoutez madame, vous allez faire autre chose. Et puis, c'est pas sûr non plus qu'au niveau de vos relations amoureuses, ça puisse aussi... tout était absolument négatif et voilà. Et elle a décidé avec un ingénieur de créer une harpe, donc de transformer justement cette catastrophe au début, et elle a réussi à créer une aniamatique, qui est en fait une harpe qui n'a plus de pédales, mais qui en fait est gérée par Bluetooth avec un système informatique qui permet de programmer déjà les différents octaves, les différents voilà. Et ce qui est absolument le comble et formidable, c'est que maintenant, donc cette aniamatique a été créée et maintenant est enseignée à des valides au conservatoire. Donc les personnes ont dit valides.
On a 7 pédales, mais on n'a que 2 pieds. Et alors, du coup, elle a 7 pieds. Et alors, elle a agrandi le répertoire des harpistes.
Elle a élargi donc, le répertoire des harpistes. Donc là aussi, c'est un revirement, c'est aussi un pied de nez, c'est aussi à tout ce qu'on prédit. Il y a des rebondissements permanents et on a été confrontés à ça, à des gens exemplaires et des gens plus simples.
Je peux parler du côté sombre aussi, parce que Anya a quand même une histoire dans laquelle elle était avec un garçon qu'elle a quitté ensuite. Enfin, ça ne me regarde pas. Mais il se trouve que quand elle a eu le résultat du procès, puisqu'il y a eu elle a pris un arbre... pendant une grosse tempête, enfin, il y a eu une responsabilité, et donc il y a eu un procès, et donc il y a eu un dédommagement, si on peut appeler ça un dédommagement. Voilà, donc elle a eu une somme d'argent, et cet ex-compagnon lui demandait la moitié de la somme. Il faut savoir aussi que dans les personnes qu'on a rencontrées, il y a des gens qui vivent des choses extrêmement violentes et contre lesquelles ils doivent se battre en plus du reste, ce qui est quand même rude. Comme dit mon excellent ami, moi, je ne pourrais pas.
Que dire de plus ?
De Koïta ?
Alors, si tu veux, Koïta ?
Koïta, c'est le frère d'un grand footballeur. Ouais, il est très fier que son frère soit footballeur. Lui, il ne peut pas parce qu'il a des problèmes de jambes, etc. Et il a découvert le pouvoir de l'argent et de la banque. Donc, il a suivi des études. Et tout d'un coup, dans la banque, il a découvert que... Il n'y a pas seulement le foot dans la vie, se déplacer avec un ballon sur un terrain qui permet de gagner, mais tout d'un coup, l'argent est un très grand pouvoir, et donc il étudie des dossiers pour des entreprises. Et tout d'un coup, on sent que ce truc l'a complètement révélé. Donc je trouvais que dans les photos... Ce qui est drôle, c'est que Astrid ne savait pas ça, quand elle a pris les photos. Et ça correspond complètement à ce que Koïta m'a raconté quand on s'est vus... cette façon, tout d'un coup, d'attraper une vie qui lui était complètement étrangère et qu'il a découverte en faisant des études et en devenant... Enfin, de façon générale, il y a quand même beaucoup de personnes, quand il s'agit d'un accident, qui, tout d'un coup, ont une sorte de revirement de vie avec... ils sont à leur place, il y a quelque chose qui se passe... et qui est comme s'il transcendait le handicap et qu'il passe de l'autre côté avec des découvertes, avec une force. Et ce qu'il faut savoir aussi, je pense, parce que c'est important, on a dans les personnes qu'on a photographiées des gens qui ont fait des trucs extraordinaires, d'autres non. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire que fait quelqu'un qui est pas, alors que ce soit de naissance ou que ce soit un accident, même si on est dans un lit et qu'on ne marche pas et qu'on ne parle pas, eh bien, même là, il y a une chose qu'on fait et qui est très difficile à faire pour quelqu'un de normal, qui arrive peut-être jamais à le faire, c'est faire changer tous les gens qui sont autour de soi, obligatoirement. Et ça, c'est quelque chose qui est fascinant. C'est... Si vous voulez faire changer quelqu'un, il va falloir vous lever de bonne heure. Mais si vous naissez comme ça dans une famille, même si les personnes le prennent mal, même si elles sont violentes, même si, de toute façon, vous allez changer les gens qui sont autour de vous par votre simple présence. Et ça, c'est très interrogeant tout le temps. C'est interrogé là-dessus. Là, on a rencontré deux jumelles trisomiques. Le père le vit bien, la mère le vit très mal. Donc le père a quitté la mère. Et le père, il est épanoui. C'est-à-dire que la mère ne supportait pas qu'on regarde ses filles dans la rue, ne supportait pas, se mettait en colère contre les gens, etc. Et le père, il dit, mais pourquoi on ne regarderait pas mes filles dans la rue? Elles ont 17 ans, elles sont deux, elles sont belles et elles sont trisomiques. Elles ont un langage à elles. Et donc il y a un type qui lui dit, mais elles parlent quoi, vos filles? Il dit, bah, elles parlent mongolien, vous ne parlez pas mongolien, vous?
Bah oui.
Et en fait...
Il voulait les emmener en Mongolie, d'ailleurs.
Voilà, il voulait les emmener en Mongolie. Et ce type, il est complètement solaire. Il les emmène partout. Il les emmène au bal, il les emmène à l'opéra. Et alors, à la philharmonie, elles sont là, elles font semblant de jouer, tout le monde les regarde et tout. Et ça ne le dérange absolument pas. Et quand il est allé dans un magasin leur chercher des robes splendissimes parce qu'il les emmène dans des trucs très chicos, le type lui dit, mais vous êtes sûr que vous voulez acheter des robes de ce prix-là pour des... Puis c'est arrêté. Et le père lui dit, pour mes princesses, bah, une robe à 800 euros, c'est pas beaucoup, hein, pour mes princesses. Mais je peux acheter des robes, voilà, c'est la robe de peau d'âne. Et donc, il y a ce truc chez lui qui est naturel, joyeux, bondissant. C'était un soldat de la République. Je pense que c'était un très, très bon commissaire de police. Il a quitté la police à cause de ça, à cause de cette stigmatisation où il avait 200 jours de RTT et le jour où ses filles ont été opérées, on lui a refusé un jour de disponibilité. Donc, il l'a pris. Et quand il est revenu, il a été sanctionné pour ça. Donc, il y a ce truc qui touche ceux qui ont le handicap, mais aussi ceux qui sont autour, où on vous dit bien que ça ne va pas se passer comme ça, quoi. Que ça va, on vous a déjà assez aidé. Et c'est tout le temps comme ça. Alors, au début, ça vous dévaste et ça vous met en larmes. Et puis, au bout de... assez rapidement, ça vous donne une force extraordinaire pour aller combattre... parce que c'est les choses telles qu'elles sont. Et qui on n'a pas vu dans nos photographies, là ? Mathilde. Mathilde, c'est assez particulier, parce que Mathilde, elle est sur une stigmatisation qui a été je suis ronde, je suis grosse et je le revendique et je veux être comme ça. Et elle n'a pas pu affirmer ça de façon forte à travers un disque. Elle est dans un corps différent. Elle n'est pas dans les canons du désir. C'est une chanteuse. En même temps, elle a une revendication artistique par rapport à tout ça. Mais il y a ce truc qui est que puisqu'elle n'est pas coupable de ne pas arriver à maigrir, on lui dit, mais quand même, tu sais, c'est dangereux pour la santé. Hein. Il faut bien lui marquer que, puisqu'elle a l'air bien dans sa peau, et elle dit, moi, ma sœur, elle est belle, elle est mince, elle est seule, moi, j'ai plein d'amants, c'est formidable. Bon, il y a cette espèce de truc décomplexé qui est au rendez-vous, en fait, et qui nous a plu, et voilà, c'est pour ça que Mathilde était dans nos choix, même si ça n'est pas... un handicap. Mais en fait, la différence, c'est... Vous avez déjà remarqué quand un homme a une grippe, qu'il a le nez bouché, il va mourir, il est handicapé, en fait. Il se comporte comme tel. Donc, c'est très relatif, tout ça. On a tous été au fond de notre lit avec un truc, mais ça ne dure pas. Ou alors un bras cassé, ou alors une jambe cassée... Le tout premier livre, d'ailleurs, où j'ai abordé le handicap, s'appelait « Cassé » et racontait l'histoire de ma fille quand elle s'est cassée le bras et que tout d'un coup, elle est confrontée au fait que le monde s'écroule, hein, alors que, voilà, à la fin du plâtre, tout va bien aller, alors que son petit frère, ça sera toujours... il sera toujours handicapé. Et donc, c'est cette confrontation entre le handicap qui ne va pas durer... Et celui qui est définitif, en fait. Ah tiens, Jim est...
Bah oui, le revoilà.
Le revoilà. Il serait très content d'être au centre, en tout cas. Il est très décomplexé, Jim. S'il vous trouve sympa, il va prendre votre numéro de téléphone. Il va vous laisser des messages auxquels vous n'allez rien comprendre parce que sa diction est plus qu'hasardeuse. Mais c'est très intéressant parce que, du coup, on peut faire des choses avec ça. On peut avancer.